Chapitre 3. La Valette.
Kristen Lloyd était un lève-tôt. L'habitude de sauter du lit au chant du coq remontait à ses années d'enfance en Inde, au cœur des collines enchantées de Shillong. Il faisait encore nuit quand il descendait au salon où ses parents étaient déjà installés pour le petit déjeuner. Bien qu'il fût planteur de thé à 16 heures et trafiquant d'opium le reste du temps, son père ne buvait que du café. « Le thé est une boisson de femme », aimait-il à répéter. « Les vrais hommes boivent du café. » Ses petits déjeuners comportaient une surprise. Avant d'entrer dans la pièce, le jeune garçon ne savait pas s'il lui faudrait parler anglais, la langue de son père, ou allemand, celle de sa mère. Cela dépendait de subtiles humeurs que Kristen était trop jeune pour apprécier. Il aimait ce court instant d'incertitude où il ignorait encore s'il devrait répondre « Yes, Dad » ou « Ya, Mutti ». Certains jours, l'exercice comportait des variations. Au lieu de lui parler anglais, son père l'interpellait en kazi, la langue des tribus du coin qu'il maîtrisait parfaitement, ou en gourkali qu'il baragouinait avec allégresse. Dans sa jeunesse, le trafiquant d'opium avait été dans l'armée et il prétendait que les gurkhas étaient les seuls indiens en qui l'on pouvait avoir confiance. « Et d'ailleurs, ils ne sont pas indiens, » ajoutait-il avec une pointe de férocité. Ce qui ne l'empêchait pas, quand il avait trop bu, de se targuer du sang Rajput qui coulait dans ses veines. Campée à 1 500 mètres d'altitude, la maison des Lloyd dominait la ville, les collines et le lac artificiel que le chief commissioner avait fait aménager. Il en était ainsi dans toutes les stations de montagne des Indes anglaises. Les Européens vivaient sur les hauteurs et les indigènes en contrebas. « Il faut bien montrer que nous sommes supérieurs », ironisait son père, qui pourtant savait que ce n'était pas la vraie raison. Si les Sahibs vivaient en altitude, c'était pour se protéger, car les conditions sanitaires se dégradaient au fur et à mesure que l'on descendait dans les vallées. Tout au long de son enfance, Kristen avait été mis en garde contre les dangers de la vie. Et c'est pourquoi, sans doute, il était devenu intrépide. En Inde, si l'on en croyait les adultes, il fallait se méfier de tout, de l'eau, du soleil, des plantes, des serpents, des indigènes et des femmes, surtout des femmes. La phobie des épidémies revenait dans les conversations comme un leitmotiv, surtout depuis la grande épidémie de choléra qui secoua Shillong en 1879. Une date si importante que les kazis s'en servaient pour donner leur âge. Kristen lui-même avait appris à dire qu'il était né 16 ans après l'arrivée du choléra et 2 ans avant le tremblement de terre de 1897. Vu de Malte, 40 ans plus tard, Shillong semblait appartenir à une autre planète. Kristen n'avait quitté ses collines natales qu'en 1906, l'année où la première voiture était apparue dans la ville. Or, voici que de nouveau, il se trouvait confronté à la peur des épidémies, mais à Malte cette fois. Tous les Anglais que Lloyd rencontrait à la Valette depuis son arrivée parlaient maladie. Il était question de scorbut, de gale, de stomatite, de trachome, de dysenterie, de tuberculose, et surtout, en cet été 1942, de typhoïde. Éventré par les bombardements, les égouts ne fonctionnaient plus. Dans les abris souterrains, les tunnels et les grottes où se serraient les divers services de l'armée britannique, le principal problème était celui des toilettes. « Encore heureux que les Anglais soient constipés de nature », ironisait Phyllis O'Brien. Quand ils ne parlaient pas chasse d'eau et maladie, les assiégés dissertaient avec appétit sur les privations et rêvaient de festins royaux, de mets succulents, de roast beef et de kidney pies. Les plus gourmands feuilletaient des livres de cuisine et fantasmaient sur les recettes comme des adolescents découvrant une revue pornographique. Les Iliens parcouraient des kilomètres à bicyclette pour se procurer 500 grammes de pommes de terre au marché noir. La nuit, malgré tous les dangers et le couvre-feu, ils partaient en expédition pour la petite île de Gozo, moins touchée par les bombardements, car les plus malins et les plus riches réussissaient à y trouver fruits et légumes. Il manquait de toute façon l'essentiel, la bière. L'anglo-indien se félicitait d'en avoir éclusé plusieurs pintes aux messes des officiers lors de l'escale à Gibraltar. À côté de cela, la vie continuait. Le Times of Malta, donnait les horaires des séances de cinéma, des pièces de théâtre et des matchs de boxe. Le numéro du 15 août rappelait que c'était le 1078e jour de guerre. La une et l'éditorial de la page 2 étaient consacrés au convoi de la dernière chance, celui de la Santa Maria. Mais les détails donnés au lecteur se limitaient à l'essentiel. Tout cela était émouvant, mais peu réjouissant, se disait Christine, en avalant ce matin d'août un bol de médiocres céréales. Et la suite du voyage risquait d'être pire. Jusque-là, Lloyd et Tapa étaient restés sereins. Tous deux, après tout, en avaient vu d'autres, le premier dans la prison de Liverpool et le second sur le front de l'Afghanistan. En quittant l'Angleterre, ils étaient l'un et l'autre persuadés que l'aventure serait brève, puisqu'ils entendaient profiter de la voiture diplomatique du Vatican pour se rendre en Suisse, où ils attendraient la fin de la guerre. Dans la pire des hypothèses, ils seraient condamnés par contumace, et il ne leur resterait plus, dans l'attente de jours meilleurs, qu'à aller vivre dans un pays accueillant, le Brésil ou la Thaïlande, par exemple. Mais depuis quelques heures, la donne, hélas, avait changé. Christine avait décidé d'aller en Allemagne. Il était tard, la veille au soir, quand Kevin Barnes avait débarqué soudain dans la chambre de Christine avec une denrée rare, une bouteille de vrai whisky irlandais. L'officier préférait le gin, mais qui aurait été assez sot, en 1942, pour bouder quelques rasades d'Old Bushmills. « Bonne nouvelle !» s'exclama le colonel après avoir rempli deux pleins verres. « Nous avons enfin des informations sur Chandra Bose. Un coup de chance. Un de nos agents d'Ankara est tombé sur un diplomate portugais qui revenait de Berlin. Il y connaît un certain Nambiar, un journaliste indien qui vit en Allemagne, un ami de notre protégé Bose. Il avala une gorgée de whisky avant de poursuivre. « Bon, les informations datent un peu. » Mais la situation n'a guère dû changer. Bose est donc à Berlin. Les Boches le traitent comme un chef d'État, mais préfèrent pour l'instant ne pas reconnaître officiellement son prétendu gouvernement en exil. Il est sous la coupe directe de Ribbentrop. Une de vos vieilles connaissances, je crois, monsieur Lloyd. Christine secoua la tête. N'exagérons pas. Je n'ai croisé que deux ou trois fois ce faux aristocrate. Plutôt bel homme, assez doué en langue, ce qui ne veut rien dire. Par ailleurs, vide, snob et insignifiant, mais plaisant beaucoup aux Anglaises. Le colonel sortit une feuille de sa poche. Bose a rencontré Ribbentrop en Autriche quelques semaines après son arrivée à Berlin. Dans la pratique, il est surtout en contact avec Wilhelm Kepler et un certain Adam von... Ah, c'est un nom à coucher dehors. Il se pencha sur le document, mais Christine termina à sa place. Adam von Trott-Zusolz. Un personnage intéressant. Je l'ai rencontré en Chine il y a quelques années. Je doute qu'il soit nazi. Vous êtes un naïf, monsieur Lloyd, poursuivit Barnes. Mais revenons à Bose. Il se déplace beaucoup. En Allemagne, en Autriche et à travers toute l'Europe. Très libre de ses mouvements, du moins en apparence. Dans la réalité, tout le monde le surveille de près. Les affaires étrangères, la police secrète, la Gestapo, l'Abwehr, que sais-je encore. Pour en savoir plus, il vous suffira, et c'est là la bonne surprise, d'aller frapper à la porte d'un certain Martin Wurtz. C'est bien le frère de Jutta, votre ancienne petite amie à Berlin. Christine eut du mal à cacher son trouble. Il alluma une Woodbine d'une main tremblante. « Je vous l'ai déjà dit et redit, colonel, Jutta n'était pas ma petite amie. Quant à Martin, je le croyais mort. Je n'avais plus de nouvelles de lui depuis juin 1940. Pas étonnant. Le courrier entre l'Allemagne et l'Angleterre n'est plus ce qu'il était, grommela l'officier. Christine secoua la tête. Nos lettres ne passaient pas par la poste. Nous avions des amis communs, des journalistes américains, qui, eux, étaient toujours à Berlin. Cela dit, colonel, au lieu de vous réjouir, vous feriez mieux de vous inquiéter. Tout ce que vous venez de me dire prouve que je ne suis pas l'homme de la situation. Tout le monde va me reconnaître. » Le colonel fit la grimace. « Non, non, personne ne vous reconnaîtra. Moi-même, j'ai du mal à vous reconnaître avec votre barbe. » Ajoutez à cela les lunettes et l'uniforme d'opérette que les Italiens vont vous préparer. Et puis les années ont filé. Je vais vous faire une confidence, monsieur Lloyd. J'ai reçu l'autre jour une photo de ma propre femme qui m'a quitté en 39. Eh bien, je ne l'aurais pas reconnue si je l'avais croisée dans la rue. Les femmes changent à vue, colonel, mais pas les hommes. Et puis, de toute façon, il y a la voix. C'est un problème, j'en conviens. Mais je vous prenais pour un linguiste. Il vous faudra parler allemand avec l'accent indien. C'est possible, n'est-ce pas? Achat, achat, concéda Christine en dodelinant de la tête. Da Silva était indien, ne l'oubliez pas. Au reste, je ne vous demande pas d'aller dîner chez les Ribbentrop ou chez les Trott. Concentrez-vous sur Martin Wurtz. Il n'aime pas Hitler, m'avez-vous dit l'autre jour. Christine écrasa sa woodpine dans le cendrier. Vous semblez ignorer ce qu'est un état policier, colonel. Les Allemands sont les otages. Beaucoup détestent le Führer, mais ils ne peuvent pas s'opposer à lui. Et je vous rappelle que les Wurtz connaissent Hitler depuis l'enfance. Ce qui les protège, j'imagine. On doit moins les surveiller. Détrompez-vous. Röhm aussi était un ami de Hitler, un véritable ami, ce qui ne l'a pas empêché d'être éliminé. N'empêche, reprit Barnes, il y a des Allemands prêts à trahir Hitler. Vous allez bientôt en rencontrer deux, un vieux moine et une femme spécialiste de la Grèce antique. Christen s'avoua vaincue. Eh bien, soit, j'irai jouer les héros à Berlin puisque vous y tenez. Et j'en profiterai pour convaincre Jutta et Martin de quitter l'Allemagne. Au fait, qu'a prévu Londres pour notre retour? Tout sera prêt. De Fribourg, vous passerez en Suisse. Un jeu d'enfant. Oh, je me méfie des jeux d'enfant. D'autant que nous serons quatre à vouloir passer la frontière. À ce propos, colonel, il faudra vous engager à traiter les Wurtz comme des amis. Pas question de les jeter en prison, comme c'est devenu une fâcheuse habitude en Angleterre. Barnes eut l'air gêné. Vous faites allusion à Oswald Mosley. Non, à sa femme, que vous avez mise en prison en lui arrachant son bébé de 10 semaines. Aux centaines de Britanniques jetés au trou sans jugement, dont un certain Christian Lloyd qui pourtant n'aurait pas fait de mal à une mouche. Je pense aussi aux Allemands honnêtes qui vivaient en Angleterre ou dans l'Empire, et même à ce crétin de Rudolf Hess. Hess, nous n'allions tout de même pas le décorer pour avoir sauté en parachute au-dessus de l'Écosse. C'était le bras droit de Hitler, ne l'oubliez pas. Christine se passa la main dans la barbe. Soit, mais avouez que ça fait beaucoup de monde en prison. Si l'Europe est à feu et à sang, ce sont quand même bien les hommes politiques qui sont en premier responsables. Oh, je n'en disconviens pas, concéda l'officier. Bien, nous progressons. Le colonel leva les mains. Bon, je verrai ce que je peux faire quand les Wurtz débarqueront en Angleterre. J'en parlerai à Winston en personne. Cela, au moins, je peux vous le promettre. Je puis même le faire sur la seule chose qui compte encore pour moi, le souvenir de Peggy. Peggy était ma fille unique. Elle est morte il y a 4 ans, le soir de Noël. Avouez qu'il m'est impossible de croire en Dieu après cela. Ah, Christine, je vous envie. Cette souffrance, au moins, vous sera épargnée. Il n'y en a pas de pire. Peggy était un émerveillement de tous les instants. Elle était mon soleil, ma raison de vivre. Vous connaissez ces admirables vers de Victor Hugo? Attendez. Il se concentra et cita le poète en français. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux. Et Christine lui donna aussitôt la réplique, si j'avais, en partant, vu quelque ombre en ses yeux. Pour la première fois, le colonel avait appelé Lloyd par son prénom. Celui-ci décida de l'imiter. Vous savez, Kevin, ce que disent les Indiens? Ils prétendent que les dieux sont les rois de la débine. Jamais là quand on a besoin d'eux. Sage vision des choses, vous ne trouvez pas? Christine était émue. En évoquant le souvenir de sa fille, Barnes venait de montrer qu'il n'était pas insensible. J'irai donc en Allemagne au nom de Peggy, poursuivit Lloyd. Et je reviendrai avec la seule personne qui compte dans ma vie. L'officier se leva, bredouilla quelques mots inaudibles, puis quitta la pièce. C'est lorsqu'il fut parti que Christine s'aperçut que ses propres yeux étaient embués de larmes. Berlin. Depuis plusieurs jours déjà, Trudy Schneider surveillait les Wurtz comme le lui avait ordonné Himmler. La mission était délicate, car à moins de posséder un don d'ubiquité, il lui était impossible de suivre à la fois Jutta et Martin. Tous deux, certes, travaillaient à l'Abwehr, mais leur emploi du temps était différent. À son retour du Tanganyika, Jutta s'était retrouvé muté au chiffre, ce qui limitait ses déplacements. Martin, en revanche, ne cessait de parcourir la capitale en tous sens. Rien de suspect, a priori. Il était évident qu'il avait la confiance de Canaris, mais quel crédit, justement, pouvait-on accorder à l'amiral, ce petit bonhomme nerveux et inquiet qui se gavait de pilules pour soigner des maux imaginaires. Curieux tout de même, pensait Trudy, comme les hauts dignitaires du Reich semblent tous en quête du médecin, du charlatan ou de la potion miracle qui allait les guérir. Même Himmler, depuis des années, se bourrait de morphine pour soulager ses crampes d'estomac et faisait venir à grands frais un masseur estonien ou finlandais, lequel, prétendait-il, détenait son savoir d'un médecin chinois. Trudy connaissait cet étranger, puisque c'était elle qui, à deux ou trois reprises, était allée le chercher à l'aéroport. Les hommes, en fait, n'étaient solides qu'en apparence. Il suffisait d'une piqûre d'épingle pour les abattre. Alors qu'il y avait tant à faire avant la victoire finale du Reich, Himmler, le chef de la Gestapo, l'homme le plus puissant du Reich après Hitler, pensait d'abord à ses crampes d'estomac. L'estomac, justement, était aussi le seul vrai souci de Trudy Schneider. Même une anorexique ne peut faire le pied de grue pendant des heures sans s'alimenter. Elle apportait certes deux biscottes et une demi-pomme avec elle, mais, contrairement à Hitler, elle était carnivore. Une fois par jour, elle avait besoin de ses 80 grammes de steak haché. Et puis, même si elle ne dormait que 5 heures par jour, il fallait bien qu'elle rentre chez elle, ce qui signifiait que la surveillance des Wurtz était lacunaire et aléatoire. Trudy s'en était d'ailleurs ouverte à Himmler, mais celui-ci avait repoussé ses inquiétudes. « Je ne vous demande pas d'être en permanence sur le terrain, Trudy. Si je voulais tout savoir sur les Wurtz, je mettrais dans l'instant 20 personnes à leur trousse. Si vous ne dormez pas assez, vous laisserez passer le détail qui compte. Dormez, Trudy, dormez. Imitez sur ce point notre ami Canaris. Il se couche avec les poules. Mais grâce à vous, nous entrerons peu à peu dans l'intimité des Wurtz, nous apprendrons à mieux les connaître. Ce qui nous fera gagner un temps précieux quand ils seront enfin coupables, car ils le seront finalement un jour ou l'autre, croyez-moi. Le détail qui compte, jusqu'ici Trudy n'en avait remarqué aucun. Le seul élément inattendu avait été une visite de Martin à l'hôpital, une visite de routine à la suite d'une opération de la main. Par précaution, elle avait demandé à la Gestapo le dossier du docteur Hoffmann. Il était impeccable. Le chirurgien était membre du Parti national-socialiste depuis 1933. Quant à Jutta, elle s'était rendue sur la tombe de ses parents. Là encore, Trudy avait tout vérifié, allant même jusqu'à soulever les pots de fleurs, au cas où un message secret aurait été caché là. En vain. Jutta mena la vie normale d'une femme de retour au pays après une longue absence, visitant les magasins et allant saluer quelques amis dont Trudy avait bien sûr vérifié l'identité. Rien non plus de ce côté-là. L'Allemande n'était pas une débutante. Elle connaissait les aléas d'une filature sur une longue durée. Himmler avait raison. Les Wurtz, s'ils étaient coupables, allaient commettre une erreur. Il serait alors facile de les faire pendre. En attendant, la plus extrême prudence s'imposait, car il ne fallait pas oublier l'un des éléments délicats du dossier. Martin, Jutta et Hitler étaient des amis d'enfance. Baie de Saint-Paul, Malte. Phyllis O'Brien sortit de la Jeep et regarda la mer. L'hydravion était bien là, à l'endroit même où, selon la tradition, Saint-Paul avait fait naufrage. L'Irlandais se tourna vers son passager, Pisani, le pêcheur de Marsh Loch. Good gracious, vous aviez raison. Le Maltais sourit. Traverser le détroit en bateau aurait été suicidaire, il l'avait toujours dit. Tant pis pour son compte en banque. Mieux valait être pauvre à Marsh Loch que de sauter sur une mine au large de la Sicile. S'il lui fallait un jour donner sa vie, il le ferait, mais pour ses enfants, pas pour le roi d'Angleterre. Les deux hommes avaient quitté Marsaschlock une heure auparavant et pris la route du nord en direction de la belle Saint-Paul. Phyllis savait ce qu'il y trouverait, mais il voulait le voir de ses yeux. Dès le coup de téléphone de Pisani, il s'était précipité au quartier général. Oui, avait-on confirmé, il y avait bien un hydravion italien dans la baie de Saint-Paul, au nord-ouest de l'île. Un autre miracle. Le 29 juillet, un appareil de la Regia Aeronautica, un Kant Z-506B, s'était posé en douceur dans les eaux maltaises. Des Spitfire s'apprêtaient à l'abattre quand les aviateurs anglais se rendirent compte que l'hydravion était en train d'amerrir. L'instant d'après, un homme sortait de la cabine en agitant un mouchoir blanc. Une vedette s'approcha de l'appareil et les Anglais découvrirent avec stupeur que si l'équipage des cinq hommes était bien italien, l'avion était entre les mains de quatre Britanniques, lesquels avaient bénéficié d'une protection des dieux inhabituelle. Partis de Malte la veille, leur Beaufort, chargé de pilonner un navire ennemi, avait été abattu et leur mission s'était terminée dans un canot de sauvetage. Un hydravion italien qui se rendait sur l'île de Leucat les recueillit. Le lendemain, les Italiens avaient transféré les Britanniques sur un autre appareil en partance pour Tarente. Alors que le Kant Z-506B filait vers le sud-est de l'Italie, les Anglais prirent le contrôle de l'appareil et contraignirent le pilote à changer de cap. Ils purent ainsi regagner Malte, leur point de départ, après une absence de 24 heures. Phyllis s'était renseignée. L'hydravion avait subi quelques dommages mineurs, mais il était en état de marche. Il y aurait des résistances à vaincre, mais elles le seraient. Dès son retour à La Valette, l'Irlandais ferait le point avec le colonel Barnes, lequel n'aurait d'autre choix, sans doute, pour obtenir le feu vert, que d'envoyer un message à Londres. En attendant, le plus dur était fait. Cet hydravion était un don des dieux qui, pour une fois, avait choisi le bon camp. L'engin allait permettre à Christen et à Tappa de gagner le sud de l'Italie. Restait à trouver un excellent pilote. Par chance, l'Angleterre n'en manquait pas. Phyllis O'Brien se tourna vers Pisani. « Vous êtes un génie, Giorgio. J'étais en train de remuer ciel et terre, d'envisager un parachutage. Alors que la réponse était là, sous nos yeux. Je vous promets une décoration à la fin de la guerre. » Le Maltais eut un sourire. Une décoration? Oh, ce n'est pas le genre de la famille. Je ne suis qu'un pauvre pêcheur. Eh bien, dites-moi votre prix. Vous avez de la chance, Giorgio. Mon supérieur hiérarchique est de passage à Malte. Votre prix sera le sien. Pisani fit mine d'hésiter. Cela faisait des jours qu'il faisait ses comptes. Oh, ce n'est pas grand-chose, monsieur O'Brien. La vie de pêcheur est rude. J'aimerais que mes fils aient une bourse pour aller étudier en Angleterre. Je me suis renseigné. Il semble que Winchester College soit une assez bonne école. Phyllis éclata d'un grand rire. Il y en a de pire, en effet. De moins cher aussi, d'ailleurs. Mais bon, va pour Winchester. Au fait, combien de fils avez-vous? 8, monsieur O'Brien, seulement 8. Mais nous sommes de bons catholiques et ma femme est de nouveau enceinte. Une petite Maria, peut-être, pour changer. Espérons-le pour le contribuable anglais, Giorgio. Espérons-le. Berlin. Une fois par mois, Rudolf Breuer se rendait à Lichtenberg pour rendre visite à sa mère, qui, depuis 40 ans, couvait un cancer d'autant plus pernicieux qu'il ne voulait pas se déclarer. L'été, afin d'économiser l'essence du Reich, l'employé modèle de l'Abwehr prenait une bicyclette. Chemin faisant, il lui arrivait de s'arrêter. Sur un carnet de Moleskine noir, il notait ce qui lui paraissait ne pas correspondre à la normalité, celle du Troisième Reich. C'est ainsi qu'il avait remarqué, quelques semaines auparavant, qu'une librairie affichait en devanture, à côté de « Vol de nuit » de Saint-Exupéry, un exemplaire de « Despair », l'édition anglaise du roman qu'un certain Nabokov avait publié à Berlin en 1936. À l'Abwehr, Breuer était préposé à la vérification des factures, des serrures, des ramettes de papier, des stocks de carbone et de trombone, mais il se flattait d'avoir un certain sens littéraire. Il rappelait volontiers que son titre de Herr Doktor lui avait été attribué pour une thèse sur les écrits administratifs d'un écrivain italien. Il n'avait jamais lu ce Nabokov, mais il se souvenait d'un entrefilet du Völkischer Beobachter où un éminent critique rappelait que ce slave, sans doute une taupe soviétique, s'était marié à Berlin en 1925 à une juive russe. Il n'était guère civique, de la part du libraire, de faire ainsi la promotion d'un auteur apatride, d'ailleurs réfugié aux États-Unis. Breuer envoya aussitôt, par voie hiérarchique, un rapport circonstancié au docteur Goebbels, le ministre de la Propagande et de l'Information. Le mois suivant, quand Breuer repassa devant la boutique en allant voir sa mère, il constata que seuls les bons écrivains étaient désormais présentés, à commencer par les premiers d'entre eux, Adolf Hitler, Alfred Rosenberg et Joseph Goebbels, dont le roman Michael était un pur chef-d'œuvre. À deux pas de ce libraire, justement, il y avait une papeterie de gros où l'Abwehr s'approvisionnait à l'occasion. Puisqu'il était dans le quartier, Breuer en profiterait pour vérifier que sa dernière commande de fiches de Bristol bénéficierait bien cette fois d'une réduction de 15%. C'est au moment où il allait pénétrer dans le magasin que Breuer pensa de nouveau à ce qui depuis plusieurs jours le tourmentait, le passeport manquant. Sa note de service, adressée en haut lieu, était restée sans réponse. L'amiral Canaris avait même haussé les épaules quand, le croisant dans un couloir, le Herr Doktor de l'administration s'était permis une discrète allusion à ce sujet. Pourtant, les faits étaient là. Un passeport manquait. Il faudrait donc reprendre toutes les fiches, vérifier de nouveau la liste des traîtres potentiels, confronter les réponses, bref, tout scruter au microscope. Bien qu'il ne fût pas de service ce jour-là, Rudolf Breuer décida qu'il retournerait à son bureau dès qu'il en aurait fini avec sa mère. Il rentra dans le magasin. La première chose qu'il aperçut près de la caisse fut un exemplaire du livre de Nabokov, le protégé du Kremlin. Il provenait sans aucun doute du voisin libraire. Eh bien, ce ne serait plus 15, mais 20% de réduction que Breuer exigerait désormais. La bataille du désert était une chose, mais on oubliait un peu trop une autre bataille, celle que lui-même menait chaque jour en noircissant ses fiches de Bristol. Le Caire. En Afrique du Nord, justement en ce mois d'août 1942, la bataille du désert semblait s'essouffler, car les adversaires refaisaient leurs forces. Par deux fois, Winston Churchill avait tenu à s'arrêter en Égypte. Alors qu'il se rendait à Téhéran et à Moscou, le Premier ministre visitait El Alamein. Il était de retour quelques jours plus tard pour rencontrer Montgomery, le nouveau chef de la 8e armée. Churchill savait que tout se jouerait dans les semaines qui venaient. Ou bien les Anglais repousseraient vers l'ouest les troupes de Rommel, ou bien les Allemands et les Italiens fêteraient Noël au Caire et à la Valette. Mussolini, paraît-il, se voyait déjà caracolé sur un cheval blanc au pied de la grande pyramide. Une fois au Caire, où s'arrêteraient les forces du Reich? Beaucoup d'Anglais étaient pessimistes. Le désastre de Tobrouk, le port de Cyrénaïque, hantait toutes les mémoires. Churchill, en particulier, refusait de l'accepter. Prudents, des Juifs égyptiens faisaient leurs valises et prenaient le chemin de la Palestine. Au Caire, les Anglais commençaient à brûler les documents qui ne devaient pas tomber entre les mains des Allemands. Ce n'était plus seulement la Grande-Bretagne, repliée sur son île, qui était en danger, mais tout l'Empire, un empire qui risquait de basculer entre les mains de l'ennemi si l'Égypte tombait et si la Légion de Chandra Bose parvenait à gagner les Indes.